Je vous dis, je vais vous demander de vous tourner avec moi dans le chapitre 17 du deuxième livre des rois. Nous arrivons à un grand moment de l'histoire biblique. J'entendais à la radio quelqu'un parler du fait que beaucoup d'étudiants en France ou d'élèves dans les écoles connaissent la date 1515. 1515, ça vous rappelle quelque chose ? Voilà, Marignan, 1515. Ça, on nous l'a appris. Pourquoi est-ce qu'on le retient ? Parce que déjà, c'est facile, hein, c'est pas 1527, c'est 1515. Et puis, on a dans l'imaginaire collectif la photo de François Ier, un roi qui était prospère, qui était un roi important dans l'histoire de France, du moins on nous l'a dit. Et quelqu'un commentait en fait que la victoire de Marignan sur les Suisses, je crois qu'il y en avait peut-être un ici, c'était pas en fait une histoire très importante qui a eu de grandes conséquences. Mais, parce qu'en plus, je crois que 5 ans plus tard, Marignan a été repris par les autres. Et qu'en fait, c'était plus parce qu'on connaît la date que c'est devenu une bataille importante, qu'on a nommé des rues à Paris, notamment la rue Marignan, mais qu'en fait, c'était pas très important. Aujourd'hui, dans le chapitre 17, on arrive à l'année 721-722. Il y a un petit décalage, mais 722, c'est une date très importante. C'est l'année où Israël, le royaume du Nord, a été emmené en exil par l'Empire assyrien. Une autre date qui va arriver, c'est 586 ou 587 avant Jésus-Christ. Et là, ça va être le royaume du Sud, Juda, avec pour capitale Jérusalem, qui va tomber aux mains de Babylone, le grand empire qui va prendre la place de la Syrie. Et c'est quelques-unes des dates que vous devez noter sur votre Bible quelque part, parce que ça organise l'histoire de l'Ancien Testament. Une autre date très importante, c'est l'année 0 ou l'année plus 4, l'année de l'arrivée de Jésus-Christ sur la terre, de notre ère chrétienne. L'année 70, ça va être la chute de Jérusalem aux mains des armées romaines, la disparition de la nation d'Israël en tant que nation, la destruction du temple. Donc il y a quelques grandes dates qu'il est bon de connaître, de savoir que David, c'est à peu près en l'an 1000, David et Salomon, c'est un millier d'années avant Jésus-Christ. Mais on arrive donc à cette date très importante, la chute, la fin du royaume d'Israël, ce royaume du Nord qui résultait de la séparation du grand royaume de David et de Salomon en un royaume du Nord et un royaume du Sud. Je le répète à chaque fois qu'on parle de ces deux royaumes, mais c'est pour que ça soit quelque chose qui devienne un réflexe dans vos pensées, que vous sachiez qu'en haut il y avait 10 nations, qu'on appelait des fois ce royaume le royaume d'Éphraïm, parce qu'Éphraïm c'était la tribu la plus importante, que le royaume du Sud c'était le royaume de Juda. Il y avait l'autre nation de Benjamin et quelques membres des autres tribus qui n'avaient pas suivi le royaume du Nord dans cette séparation. Mais l'histoire de l'Ancien Testament, c'est malheureusement un peu l'histoire de notre vie. Dieu nous aime, Dieu nous parle. Dieu est un Dieu jaloux dans un bon sens. Il ne veut pas que nous accordions de l'importance à d'autres choses dans notre vie. La chose la plus importante, ça doit être lui. Mais nous avons tendance à à avoir des idoles, des choses qui prennent la première place. Et dans l'histoire de l'Ancien Testament, l'histoire du peuple de Dieu, c'est cet éloignement de Dieu lorsque les choses vont bien. Dieu qui utilise des circonstances, des épreuves pour nous ramener à lui, pour nous rappeler que sans lui on ne peut rien faire, mais qu'avec lui on peut tout faire. Et c'est cette répétition constante, notamment dans le livre des juges et dans le livre des rois aussi. Il y a des rois qui approchent, qui se rapprochent et qui rapprochent le peuple de Dieu, du Dieu vivant, du vrai Dieu d'Israël, le Dieu créateur des cieux et de la terre. Et puis, lorsque les choses vont bien, que la prospérité arrive, il s'éloigne de lui. Et Dieu doit en arriver à des mesures extrêmes pour nous rappeler à lui. Et là, la chose la plus terrible, c'était de laisser ce peuple, ce royaume d'Israël, puis plus tard le royaume du Sud, partir en captivité. Partir en captivité, le peuple de Dieu devient les esclaves, vils et serviles, de peuplades qui deviennent des empires mais qui n'ont aucun respect pour le vrai Dieu. Et c'est un problème pour le peuple de Dieu. Les prophètes eux-mêmes, à qui Dieu explique ce qu'il va faire, ce qu'il va être obligé de faire, avertissent la nation, mais le peuple n'écoute pas. Et nous l'avons rappelé, ces choses ont été écrites pour notre instruction, à nous qui vivons à Nice en 2012, ou qui écoutons ce message en 2012 quelque part dans le monde. Nous avons cette fâcheuse tendance à nous livrer à l'idolâtrie, à l'incrédulité et à rejeter la parole de Dieu, à rejeter les avertissements de Dieu. Lisons ensemble le chapitre 17 ou le début du chapitre 17, verset 1, c'est page 394 dans la Bible à la Colombe. La 12e année d'Ahaz, roi de Juda, Osée, fils d'Éla, régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Salmanazar, roi d'Assyrie, monta contre lui et Osée lui fut assujetti et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à Sô, roi d'Égypte, et qui ne faisait plus monter annuellement le tribut au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Puis le roi d'Assyrie parcourut tout le pays et monta contre Samarie, qu'il assiégea pendant 3 ans. La 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et déporta Israël en Assyrie. Il les fit habiter à Hala et sur le Habor, fleuve de Gozan, ainsi que dans les villes des Mèdes. Description de la destruction du royaume d'Israël. On a vu en étudiant le livre des rois qu'on suit à la fois les rois qui se succèdent dans le royaume du Nord, le royaume d'Israël, et dans le royaume du Sud, le royaume de Juda à Jérusalem. Et souvent, on compare les événements, ou on référence les événements par rapport à l'année du règne du roi d'en haut, du roi d'en bas. La 12e année d'Ahaz, c'était le roi de Judée. Et là, il est question du roi Osée, qui n'est pas le même roi que celui de Juda, mais c'est un roi d'Israël, qui était le fils d'Éla, dont on avait entendu parler dans les chapitres 15 et 14, 15, 16, je ne sais plus exactement quel passage. Mais toujours est-il qu'il y a ce roi qui arrive sur le trône de Samarie, et là, il y règne pendant 9 ans. Et comme tous les rois, il est décrit par une expression, il fait ce qui est bien ou ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Et lui, il était mauvais, mais il n'était pas aussi mauvais que les autres. Et ça, c'est souvent une façon dont nous consolons de nos péchés, nous nous comparons aux autres. Là, c'est la parole de Dieu qui reconnaît qu'il n'était pas aussi mauvais, mais peu importe, il va rester dans l'histoire et dans l'éternité pour un roi qui avait fait ce qui était mal aux yeux de l'Éternel. Et on a vu comment la fibre morale des chefs d'État, des dirigeants, est souvent en étroite concordance avec ce qui se passe pour les pays. Et que si les chefs d'État sont mauvais, il se passe de mauvaises choses pour les pays. C'est pas étonnant, c'est eux qui indiquent la direction, c'est eux qui peuvent impulser des politiques, qui peuvent déterminer des politiques étrangères, partir en guerre contre tel ou tel autre pays. Mais on a souligné l'importance de la capacité d'un chef d'État à suivre Dieu. Et on voit dans l'histoire, on voit dans nos pays, en France par exemple, que ça fait bien longtemps qu'on a des chefs d'État qui ne craignent pas Dieu, et on voit le résultat. C'est une vérité universelle. Et la conséquence de ce mauvais roi, des politiques de ce mauvais roi, de la dégradation morale de la vie publique, de la vie morale du peuple, c'est qu'il y a un roi qui vient assujettir. Vous vous souvenez, on avait parlé du roi Tiglath-Pileser, l'empereur d'Assyrie. Il est remplacé maintenant par un dénommé Salmanazar ou Salmanézer, suivant les versions, mais c'est le même gars. Et il vient envahir, ou il montre contre le pays, et plutôt que d'envahir et de contrôler complètement, il laisse le pays une certaine liberté, mais il demande un lourd tribut. Il demande un assujettissement, c'est-à-dire que le royaume d'Israël devient un état vassal qui dépend du roi d'Assyrie, qui n'a plus son autonomie politique, il ne peut plus décider pour lui-même, et qui doit, en échange, ou en plus, ou comme conséquence, verser des taxes énormes. C'est un processus qui se répète souvent dans l'histoire. On pense au gouvernement de Vichy en France, qui était assujetti au Troisième Reich, qui n'avait plus vraiment d'autonomie et qui devait payer des tribus en argent or, et aussi en travail obligatoire, le service du travail obligatoire, où des tas de personnes étaient déportées pas comme les Juifs, mais qui devaient aller travailler dans les usines qui fabriquaient l'armement du Troisième Reich. Et notre brave roi Osée, au lieu de se tourner vers Dieu, il va se tourner vers le roi d'Égypte, qui était aussi un ennemi, en essayant de conspirer contre le royaume d'Assyrie, contre l'empire d'Assyrie. L'Égypte aussi s'était rebellée contre le royaume d'Assyrie et il ne faisait plus monter les tribus, les impôts, les taxes qui étaient imposées. Mais le roi d'Assyrie, avant de la faire, cette conspiration de Osée, c'était le roi de Osée qui ne faisait plus payer, qui ne payait plus le roi d'Assyrie. Donc le roi d'Assyrie vient l'enfermer et il le met en prison. Et il décide d'aller envahir, d'aller prendre le royaume du nord. Et là, il doit assiéger pendant 3 ans la capitale, Samarie. Ce qui montre que les murailles qui avaient été construites par ces rois étaient des murailles costauds, qui avaient un bon système de défense. Mais l'histoire est en marche, Dieu est décidé à laisser son pays, son royaume, son peuple plutôt, du nord, partir en déportation. C'est ce qui se passe. Et c'est terrible, et on ne comprend pas. Souvent, lorsque l'on parle d'un Dieu qui, autour de nous, d'un Dieu qui aime les hommes, qui veut leur faire du bien, qui veut qu'ils le reconnaissent, qu'ils l'adorent, qu'ils le placent en premier dans leurs affections, les gens nous reprochent les catastrophes, nous reprochent les malheurs qui peuvent leur arriver, en disant « Mais si ton Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il se passe telle ou telle chose ?» Soit il n'existe pas, soit il est indifférent aux souffrances du monde, soit il est impuissant. Et de toutes les façons, un Dieu qui tombe dans une de ces 3 catégories, surtout si c'est la première où il n'existe pas, je veux rien savoir de lui, je ne veux pas avoir à l'adorer, à le reconnaître. Et souvent, nous avons du mal à répondre à ces questions. J'aime bien vous préparer avec des réponses qui sont des débuts de conversation, ce n'est pas des réponses qui vont être acceptées telles quelles, mais Dieu est un Dieu d'amour et il nous laisse la liberté d'aller vers lui ou pas. Lorsque nous le rejetons, nous ne pouvons pas après coup nous lui reprocher de ne pas nous protéger. Nous disons qu'il n'existe pas et quand il ne nous protège pas, nous lui disons qu'il est un mauvais Dieu. Et donc, on peut faire noter aux gens qui posent ces questions l'incohérence de leur position, mais surtout, il faut leur parler, leur montrer l'amour et la grâce de Dieu, cette grâce que Dieu nous offre chaque jour à nous qui le connaissons. Nous ne pouvons pas pensez que l'Évangile, c'est juste pour venir à lui. L'Évangile de la grâce de Dieu, c'est pour tout le temps. C'est au départ et c'est par la suite. Même lorsque nous l'avons accepté, nous avons besoin de son pardon, de sa grâce. Nous ne sommes jamais si loin de Dieu que sa grâce ne peut pas nous atteindre. Et nous ne sommes jamais si près de Dieu que nous n'ayons pas besoin de sa grâce pour continuer à vivre. Et donc ces questions que les gens se posent et que nous aussi nous pouvons nous poser lorsque nous voyons la maladie arriver dans notre famille, que nous voyons nous-mêmes tomber dans la maladie, dans des difficultés, des chagrins, la perte d'êtres chers, nous nous posons des questions. Et Dieu a souvent la bonté, comme ici, de nous expliquer un peu pourquoi il se passe de telles choses. Pourquoi est-ce que le peuple de Dieu a été emmené en exil. On va lire ensemble, à partir du verset 7. « Cela arriva parce que les Israélites ont péché contre l'Éternel, leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte, hors du pouvoir du Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils ont craint d'autres dieux. » Ils ont suivi les principes des nations que l'Éternel avait dépossédées devant les Israélites. C'est ce qu'ont fait les rois d'Israël. Les Israélites ont fait en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qu'on ne doit pas faire. Ils se sont bâtis des hauts lieux dans toute leur ville, depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. Ils se sont dressés des stèles et des poteaux d'Achéra sur toute colline élevée et sous tout arbre verdoyant. Et là, ils ont brûlé des parfums sur tous les hauts lieux, comme les nations que l'Éternel avait déportées devant eux. Ils ont fait des choses mauvaises par lesquelles ils irritaient l'Éternel. Ils ont rendu un culte aux idoles au sujet desquelles l'Éternel leur avait dit « Vous ne ferez pas cela ». L'Éternel fit avertir solennellement Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ses prophètes, de tous les voyants, et leur dit « Revenez de vos mauvaises voies et observez mes commandements et mes prescriptions en suivant entièrement la loi que j'ai ordonnée à vos pères » et que je vous ai envoyé par l'intermédiaire de mes serviteurs, les prophètes. Mais ils n'ont pas écouté. Ils ont raidi leur nuque comme l'avait fait leur père qui n'avait pas cru en l'Éternel, leur Dieu. Ils ont rejeté ses prescriptions, l'alliance qu'il avait conclue avec leur père et les avertissements solennels qu'il leur avait adressés. Ils se sont ralliés à des vanités et se sont rendus vains. Ils se sont ralliés aux nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils ont abandonné tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se sont fait deux veaux en métal fondu. Ils ont fabriqué des poteaux d'Achéra. Ils se sont prosternés devant toute l'armée des cieux et ils ont rendu un culte à Baal. Ils ont fait passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils ont pratiqué la divination et l'occultisme et se sont vendus pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Aussi l'Éternel a-t-il éprouvé une vive colère contre Israël et les a-t-il écartés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Et même Juda n'avait pas gardé les commandements de l'Éternel son Dieu. Ils avaient marché suivant les principes qu'Israël avait pratiqués. L'Éternel a rejeté toute la descendance d'Israël. Il les a humiliés, il les a livrés entre les mains des pillards, et il a fini par les chasser loin de sa face. Lorsqu'il avait arraché à Israël à la maison de David, ils avaient établi roi Jéroboam, fils de Nébat, et Jéroboam les avait détournés de l'Éternel et avait fait commettre à Israël un grand péché. Les Israélites se sont livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en sont pas écartés jusqu'à ce que l'Éternel ait écarté l'Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par l'intermédiaire de tous ses serviteurs, les prophètes. Israël a été déporté au loin de son territoire en Assyrie, où il est resté jusqu'à aujourd'hui, aujourd'hui étant la date à laquelle ces textes étaient écrits. Merci Seigneur. Dieu est bon. Il nous donne un résumé. Quel bon sermon. On peut lire l'histoire, on peut la commenter, on peut essayer de trouver les leçons. Mais lorsque Dieu met les points sur les i, nous devons ouvrir nos oreilles toutes grandes et prendre note. Si vous voulez résumer le livre des rois, il est bon d'encadrer ce chapitre 17, verset 7 à la fin, 23. Ça décrit ce qui se passe, ça explique cela, tous ces événements, et cet exil, cela est arrivé parce que les Israélites ont péché contre l'Éternel. Un jour, peut-être, Dieu nous expliquera que les problèmes que nous avons, les difficultés, les épreuves, cela est arrivé parce que Dieu nous aime et qu'il veut captiver notre attention. Il veut nous interrompre sur la voie de la perdition. Il veut nous rappeler qu'il y a un chemin étroit, le chemin du salut. Et c'est toujours triste de voir une nation ainsi partir à sa perte. L'exil, c'était quelque chose non seulement de dégradant au niveau de l'indépendance nationale, mais il faut savoir que le peuple assyrien, c'était aussi un des peuples les plus cruels de l'Antiquité. Lorsqu'ils envoyaient les Samaritains, qu'ils les déportaient dans les endroits qui nous sont précisés, au verset 6, c'était pas un voyage en bus, un voyage en avion, c'était pas dans des voitures avec l'air conditionné, c'était avec des hameçons dans les joues. Les personnes étaient enchaînées les unes aux autres par des cordelettes qui leur étaient fixées dans la joue par des hameçons. Et c'était vraiment marche ou crève. Beaucoup mouraient en chemin. C'était quelque chose de terrible. Il y avait une cruauté. Le royaume d'Assyrie, les Assyriens n'étaient pas des gens tendres. Et le roi avait choisi, plutôt que de se tourner vers Dieu, il avait choisi de se tourner vers ce royaume pour demander la protection. Toujours une mauvaise idée de demander la protection de l'ennemi. Bien sûr, ces choses ont été écrites pour nous. On n'a plus de royaume d'Assyrie, mais on a un ennemi qui est cruel. On a un ennemi qui veut nous rendre esclaves. Et on se dit, ah, ça va être formidable de suivre Satan, de ne plus écouter Dieu et de s'abandonner au péché, de croire les mensonges de l'ennemi qui nous fait croire que, en fait, c'est Dieu qui veut notre mal et lui veut notre bien, alors qu'il est un maître très cruel. Il va vous faire souffrir. Il va vous tromper. Il va me tromper. Et lorsque je réaliserai que ce qu'il m'a promis n'était pas vrai, je réaliserai que peut-être maintenant je suis son esclave. Jésus est venu, il nous a dit que la parole, si nous demeurions dans sa parole, nous serions libres vraiment. Demeurer dans sa parole, c'est pas avoir une Bible sous l'oreiller, c'est vivre selon la parole de Dieu. C'est vivre en le respectant et en prêtant attention à ce qu'il demande et en lui faisant confiance que ses promesses sont véritables. Que même s'il y a des difficultés, des épreuves dans la vie, le suivre, c'est toujours le chemin de la plénitude, du bonheur, entre guillemets. Ils ont craint d'autres dieux. Ils ont d'abord oublié l'histoire. C'est toujours terrible d'oublier notre histoire. Nous sommes tous les témoins de la présence de Dieu. Si nous sommes ici, c'est que Dieu nous a touchés et qu'à un moment donné, nous étions loin de lui. Et notre histoire, c'est que nous l'avons découvert et qu'il a changé notre vie. Nous avons senti qu'il nous libérait de cet esclavage au péché dans lequel l'homme sans Dieu se trouve coincé, se trouve enchaîné. Mais nous l'avons oublié. Et nous pensons que les bienfaits, les bonnes choses qui nous arrivent sont dues non pas à la bienveillance de Dieu, Dieu qui nous affirme dans sa parole, dans Jacques 1,17, que tout cadeau, tout don excellent vienne du Seigneur, du Père éternel, du Dieu vivant en qui il n'y a ni ombre, ni variation, ni changement. Toutes les bonnes choses qui vous arrivent viennent de Dieu. Est-ce que vous le savez, ça? Elles ne viennent pas de vos mérites, Elles ne viennent pas de vos capacités exceptionnelles, de votre force physique naturelle, de votre tempérament positif et de votre bonne humeur, de vos capacités relationnelles. Non, tout ça, c'est Dieu qui vous les donne. Et il vous demande de mettre ces choses à son service. Mais nous oublions que c'est lui qui nous les a données. On oublie que c'est lui qui nous a fait monter du pays d'Égypte, le monter du pays de l'esclavage au péché, hors du pouvoir du Pharaon. Dieu nous a libérés du pouvoir de Satan. Lorsque nous sommes sauvés, c'est la justification. Nous ne sommes plus sous la puissance, sur la pénalité plutôt du péché, mais aussi il y a cette sanctification qui fait que nous ne sommes plus obligés de pécher. Et là, ils ont oublié qu'ils étaient hors du pouvoir du Pharaon. Et ils ont craint d'autres dieux. Ils ont fait comme tout le monde, ils ont fait comme les autres. C'est une tendance, même dans l'Église chrétienne, de s'aligner sur ce qui se pratique dans le monde, d'essayer de faire le travail spirituel en copiant les méthodes du travail du monde, en faisant de la publicité, en utilisant des ressources charnelles. On n'a rien compris quand on fait ça. On fait comme les autres. Et souvent, on justifie notre péché en disant « Mais tout le monde le fait, ça ne doit pas être si grave que ça. » Nous n'avons pas à rendre des comptes devant les autres nations, nous avons à rendre des comptes devant le Créateur de l'univers, des cieux et de la terre, le Dieu trois fois saint. Et donc, on voit qu'ils ont fait aussi des choses en secret contre Dieu. Des choses qu'on ne doit pas faire. Est-ce que nous aussi, nous faisons des choses qu'on ne doit pas faire en secret? Est-ce que nous commettons des actes? Est-ce que nous avons des péchés habituels? Que ce soit des actes, des pensées qu'on ne devrait pas avoir, des pensées qu'on entretient, des mauvaises lectures, des influences dans les médias, dans la pornographie, dans tout ce qui est la pourriture du monde. Est-ce que nous succombons à ça? Est-ce que nous avons un culte secret pour ces choses? Nous tromperons peut-être les autres pour un temps, mais Dieu n'est pas trompé, lui qui voit tout, et nous lui faisons du mal, et nous nous faisons du mal. Un acte contre Dieu, c'est d'abord un péché contre Dieu, mais c'est aussi un péché contre les gens qui nous entourent et c'est un péché contre nous-mêmes. Quand on pêche, quand on commet de mauvaises actions, ces mauvaises actions constituent, pour moi, c'est un vice. Pour le monde, c'est un crime, mais pour Dieu, c'est un péché. J'ai toujours été surpris lorsque David disait « Contre toi seul, j'ai péché ». Mais il avait commis l'adultère avec Bathsheba, suivant les versions, il avait fait tuer son mari, Uzi, et il disait, je n'ai péché que contre toi. Il s'était livré à l'adultère, c'était un vice, il se faisait du mal à lui-même. Il avait commis le meurtre par l'intermédiaire d'autrui, il avait fait commettre un meurtre par d'autres personnes, mais le meurtre, il l'avait décidé dans son cœur pour faire cacher son péché. Ça, c'était un meurtre, c'était un crime qui était contre les lois de la société. Mais il disait, « Contre toi seul, j'ai péché. » Et donc, on voit qu'ils ont... Ils ont remplacé le vrai culte de Dieu, du vrai Dieu, par un culte aux idoles. Ils ont bâti des hauts lieux, encore une fois, c'était des endroits, des hôtels sur des collines ou des monts des endroits élevés parce qu'on a l'impression qu'on est plus proche de Dieu, qu'on est, en fait, on est plutôt plus loin du monde, mais dans leur cœur, ils n'étaient pas loin des idoles et du péché, au contraire. Ils en avaient mis partout. Ils avaient dressé des stèles, des poteaux d'Achéra qui étaient des emblèmes qui représentaient, qui étaient vus comme des symboles phalliques, qui étaient des choses avec lesquelles ils se livraient à l'idolâtrie, à l'immoralité sexuelle. Ils ont brûlé des parfums sur les hauts lieux, comme les nations que Dieu avait punies en les déportant. Ils ont fait des choses mauvaises. Ils ont rendu un culte aux idoles, au sujet desquelles l'Éternel avait dit « Vous ne ferez pas cela ». Dieu nous dit « Vous n'aurez pas d'autre Dieu que moi ». Et pourtant, nous avons des idoles. C'est une réalité absolue dans la race humaine. On a été créé avec ce besoin de rendre un culte à quelqu'un. Dieu a mis en nous ce sentiment de l'éternité, de quelque chose qui nous dépasse, et nous avons tous besoin de rendre un culte à quelqu'un ou à quelque chose. Et ce qui est terrible, c'est que si on se trompe de cible, si on ne rend pas un vrai culte au vrai Dieu, à ce moment-là, on est prêt à faire n'importe quoi. Ce besoin que Dieu a placé en nous pour nous faire nous tourner vers lui, nous le dévoyons, nous le détournons, et nous adorons n'importe quoi. Nous avons vu, Dieu merci, ça prend fin ce soir, je crois, les Jeux Olympiques. Après un moment, si on a vu quelques-unes des programmes interminables. Mais on voit comment les foules ont besoin d'aduler quelqu'un. Et moi-même, je me suis surpris à vouloir que Usain Bolt gagne encore et encore et encore. Il a gagné encore et encore et encore. Il y a quelque chose en nous qui s'excite lorsqu'on voit quelqu'un qui fait des choses incroyables. Alors, ça peut être un sportif pour ceux qui suivent un peu les Jeux Olympiques, mais cette personne, elle a été dotée par Dieu de capacités exceptionnelles. Ses parents sont des chrétiens évangéliques qui le reconnaissent et qui se demandent quelle est sa mission. Lui, il est imbu de lui-même et il pense qu'il est, au lieu de reconnaître que ses dons lui ont été donnés par Dieu et de rendre gloire à Dieu, il veut devenir lui une légende, un sujet d'adoration, qu'on lui rende un culte. J'imagine qu'il va vendre des millions de posters avec ces trois médailles qui vont être placées dans les chambres des petits-enfants qui veulent faire des exploits sportifs. De la même façon, il y a d'autres athlètes qui, eux, rendent à Dieu la gloire qui lui revient. Et cette championne américaine, Allison Felix, je crois, qui a remporté aussi, elle, trois médailles d'or, mais qui a remercié Dieu pour ses victoires. Et qui lui rend la gloire, qui lui revient. C'est pas Bolt qui s'est fait tout seul. Et la façon dont il se vante, je me suis laissé dire que les autres en avaient ras le Bolt. Non. Le besoin d'adorer quelqu'un d'autre, le besoin d'avoir une idole. La scientologie, vous savez comment ça a démarré? C'était un écrivailleur, un petit écrivain de rien du tout, un gars qui écrivait des articles qui étaient payés à la pige. On lui donnait 10 cents s'il faisait une page qu'on publiait dans un journal. Puis il s'est dit, c'est pas comme ça que je vais devenir riche, je devrais fonder une religion. Et c'est comme ça qu'est née la scientologie. Il est devenu très riche, il a publié des livres qui sont des best-sellers, Dianetics, Ron Hubbard. Et les gens sont là, oh, Ça répond à tous mes problèmes. Il a trouvé des gogos qui sont contre le vrai Dieu, qui donnent tout leur revenu ou une grande partie de leur revenu, qui achètent des cours pour progresser dans la voie de Ron Hubbard. Son seul but, c'était de faire quelque chose qui lui rapporte de l'argent. Il se moquait pas mal des gens qui le suivaient, de leur bonheur et de leur paix éternelle. Et puis, verset 13, Dieu a prévenu, Dieu a donné sa parole, ils ont rejeté sa parole. L'Éternel a fait avertir solennellement Israël et Juda par l'intermédiaire de tous ses prophètes, de tous les voyants, en leur disant « Revenez de vos mauvaises voies, observez mes commandements, mes prescriptions, en suivant entièrement la loi que j'ai ordonnée à vos pères et que je vous ai envoyée par l'intermédiaire de mes serviteurs, les prophètes. Mais ils n'ont pas écouté, ils ont raidi leur nuque comme l'avait fait leur père, qui n'avait pas cru en l'Éternel, leur Dieu. » Ils ont rejeté la parole de Dieu. Dieu nous a avertis solennellement par sa parole, dans laquelle nous avons non seulement les avertissements pour Israël et Juda, mais pour nous sur qui la fin des temps est arrivée. Nous avons les évangiles, nous avons les messages de Jésus qui nous a tellement aimés qu'il s'est sacrifié pour que nos péchés soient pardonnés, que la punition lui tombe dessus. Il nous a dit, revenez de vos mauvaises voies, observez mes commandements. Mais on ne l'écoute pas. On raidit notre nuque. On fait bien ce qu'on veut. Ils ont rejeté ses prescriptions, l'alliance qu'il avait conclue avec leur père et les avertissements solennels qu'il leur avait adressés. Nous qui connaissons la parole, nous avons encore moins d'excuses que les pécheurs qui ne la connaissent pas. Et puis, il y a cette petite phrase. Qui est lourde de sens, qui est lourde de signification, qui est lourde de vérité. Ils se sont ralliés, verset 15, à des vanités et se sont rendus eux-mêmes vains. Ils ont suivi quelque chose de vide et ça les a rendus vides eux-mêmes. Ça, c'est un grand principe. Si on suit des choses vaines, nous-mêmes, nous devenons vains, vides. C'est un grand principe biblique, un grand principe de l'homme. On finit par ressembler à ceux que l'on suit. D'où l'importance de suivre les bons exemples. Le psalmiste nous a dit combien ceux qui fabriquent les idoles finissent par leur ressembler. J'aime bien ces photos qu'on peut trouver sur Internet qui montrent que les maîtres finissent par ressembler à leurs chiens. Et ils ont organisé quelques photos où la dame qui a un épagneul finit par avoir une coiffure qui ressemble à celle de l'épagneul, etc. Alors c'est humoristique, mais ça parle d'une vérité qui est une vérité biblique. Ceux qui construisent leurs idoles finissent par leur ressembler. Psaume 115 notamment. Verset 4, « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, œuvre de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont leurs mains et ne touchent pas. Elles ont leurs pieds et ne marchent pas. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Ça parlait bien sûr des idoles fabriquées comme des statuettes, un bout de bois et une partie. Paul se moquait de ça en disant il y a une partie qui va servir à faire cuire le repas et puis l'autre ça va être sculpté en idole qu'on va mettre sur un petit piédestal et devant laquelle on va s'incliner. Mais c'est vrai aussi pour les idoles que nous pouvons prendre nous-mêmes aujourd'hui. Si on prend les stars du cinéma comme nos idoles, on va finir de la même, à part leur ressembler même physiquement et surtout moralement. Vous voyez ces femmes âgées, de dos vous pouvez penser qu'elles sont relativement jeunes. Mais si vous les voyez de face, vous voyez un visage botoxé, des lèvres éclatées, un visage défoncé par la vanité de rechercher à rester jeune après 70 ans, ou 50 ans, ou 30 ans, suivant votre âge. Vanité. Ils se sont ralliés à des vanités et sont devenus vains. Si ce qui nous dirige dans la vie, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, nous allons nous vendre pour pas cher. Nous allons finir dans la vanité. Nous allons finir vains, vides. Et puis, il y a cette incrédulité. Le fait qu'ils avaient, on oublie, on tombe dans l'incrédulité, on désobéit secrètement, puis on fait les choses plus ouvertement, on rejette les instructions de Dieu et on finit par se vendre à Satan. Ils ont fini par faire la même chose que les nations qui vivaient autour d'eux et contre lesquelles Dieu avait prononcé des jugements. Ils ont abandonné tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se sont fait deux veaux, un à Bethel, un autre à Dan, pour que la religion soit plus facile à pratiquer, entre guillemets, sous l'influence de leur roi qui s'appelait Jéroboam le premier, fils de Nébat. Ils ont fait deux veaux avec du métal fondu, ils ont fabriqué des poteaux avec des bouts de bois, ils se sont prosternés devant toute l'armée des cieux, ils ont rendu un culte à Baal. Ces idoles sont vaines, mais elles représentent la puissance du diable, la puissance de l'occultisme. Les puissances occultes sont une réalité. Et lorsque l'on refuse d'adorer le vrai Dieu, on ne peut pas rester neutre. Il n'y a pas de Suisse en matière religieuse, en matière spirituelle. Si on rejette le vrai Dieu, on va aller vers de faux dieux. Et ils se sont livrés à toutes les abominations de ces fausses religions qui consistaient notamment à faire passer leurs enfants par le feu en sacrifice. Dieu n'a jamais demandé cela. Mais les idoles, oui, faisaient croire qu'il fallait que pour les apaiser, on a vu aussi toutes les dimensions, que l'immoralité sexuelle à laquelle ils se livraient produisait des enfants, il n'avait pas l'avortement à l'époque, donc il brûlait, il se débarrassait de ses enfants en les offrant en sacrifice. Est-ce que l'avortement, ce n'est pas aussi une forme de sacrifice pour des enfants que nous refusons par commodité? On a parlé déjà du sujet, c'est très, très grave et très sérieux. Ils ont pratiqué la divination et l'occultisme. Il est interdit de parler de religion à l'école. Il y a le principe de la laïcité en France, acquis chèrement par les révolutionnaires et les Lumières, mais qu'on mette les signes du zodiaque sur un bâtiment de la sécurité sociale. Oh ben, ça, tout le monde le fait, vous lisez bien votre horoscope, non, avant de prendre une décision importante. Ils ont pratiqué la divination et l'occultisme afin d'irriter l'Éternel. Nous devons parler à nos contemporains. Nous devons écrire aux journaux, leur dire qu'on n'est pas d'accord, que tous les jours, il y ait l'horoscope, qu'on n'en a rien à faire de l'horoscope. Est-ce que vous avez jamais pensé à protester? Je ne l'ai jamais fait et je me suis en train de me parler moi-même. Écrire à Nice ce matin, leur dire « arrêtez de mettre l'horoscope, je ne crois pas à l'horoscope, c'est de la religion, c'est une religion païenne ». Ils ont pratiqué la divination et l'occultisme, ce qui a irrité l'Éternel. Aussi, l'Éternel a éprouvé une vive colère contre le peuple français et les a écartés de sa face. C'est pas ce que dit le texte, bien sûr, mais vous voyez mon idée. C'est que s'il y a tant de maux dans notre pays, c'est pas parce qu'on a des problèmes de formation à l'ENA. C'est parce qu'on a un peuple qui, dans sa grande majorité, n'a jamais entendu l'Évangile. Là, ils avaient rejeté le Dieu. Là, je crois que, historiquement, on a rejeté la foi chrétienne, mais lorsque vous parlez aux gens dans la rue, ils n'ont jamais entendu l'Évangile. Et nous devons leur parler. Nous devons leur dire. L'Éternel a éprouvé une vive colère contre Israël et les a écartés de sa face. Il n'est resté que la seule tribu de Juda. Et même Juda n'a pas gardé les commandements de l'Éternel. Donc on sait que ça va suivre avec l'exil de Juda, le peuple de Dieu va continuer à être corrigé. Et encore une fois, ces corrections, ce n'est pas des corrections pour détruire, c'est des corrections pour faire revenir à Dieu. Lorsque nous vivons des choses difficiles dans notre vie, ça peut être simplement parce que nous vivons dans un monde qui est entaché par le péché et que nous vivons dans un monde où il y a de la corruption, il y a du péché, il y a de l'orgueil, de la jalousie, de la méchanceté. Mais ça peut être aussi parce que Dieu nous livre aux conséquences de notre rejet de lui. Et Dieu les a déportés loin, loin de lui, loin de sa face. Un événement très important, mais ce qui me frappe, c'est que Dieu prenne le temps de nous expliquer. On devrait comprendre rien qu'en lisant les événements et en connaissant les préceptes de Dieu, mais il prend encore avec amour le temps de nous expliquer pourquoi ces choses se passent. Il veut que nous aussi, nous comprenions que si nous rejetons Dieu, nous ne pouvons pas nous étonner que des épreuves, des choses difficiles nous arrivent. Souvent, c'est pour attirer notre attention, pour nous mettre en garde, nous rappeler des principes. Et on avait parlé la semaine dernière de Galates. C'est encore un verset avec lequel j'aimerais terminer. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous avons encore l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Amen. Prions. Seigneur, c'est vrai que ce message de mise en garde semble répété jusqu'à la nausée. Et pourtant, Seigneur, si tu répètes ce message si souvent, c'est que nous avons si souvent tendance à l'oublier, à le négliger, à le mépriser même. Seigneur, nous te demandons de toucher nos cœurs. Nous rappeler, Seigneur, que tu es là, que tu nous aimes, que tu nous donnes des préceptes, tu veux nous éviter le péché, non pas parce que tu veux nous priver de choses qui seraient bonnes pour nous, mais pour nous garder des conséquences fâcheuses et néfastes et terribles du péché, Seigneur. Parle à nos cœurs, Seigneur. Sois glorifié dans nos vies, dans nos cœurs. Garde-nous des péchés secrets, garde-nous de l'incrédulité, garde-nous du rejet de ta parole. Sois glorifié, Seigneur, dans ton Église, qu'elle puisse annoncer avec force et confiance et joie la bonne nouvelle de ton amour à tout un monde qui en a tellement soif. Sois glorifié, Seigneur. Par le nom de Jésus, nous prions. Amen.